Chapitre 26. Les soldats montés sur d'impressionnants destriers baissèrent la tête pour mieux étudier Ishak, qui venait de s'arrêter près du puits public sur une petite place située à la lisière est de la ville. Comparé aux montures des soudards, les talons qu'Ishak tenait par la bride paraissaient minuscules. N'étant pas carapassonné, il semblait presque ridicule face à des bêtes dressées pour la bataille. D'ailleurs, celles-ci ne se gênaient pas pour lui témoigner leur mépris à grand renfort de hennissement dédaigneux. Sadine recula d'un pas, histoire de se mettre hors de portée des mâchoires du plus agressif de ses congénères. N'était cette précaution, il ne trahit aucune peur et garda fièrement la tête haute. Les soldats étaient encore plus effrayants que leurs montures. Vêtus d'une cuirasse noire, protégés par une cotte de maille, ils charriaient une sinistre panoplie d'armes plus redoutables les unes que les autres. Tous étaient des colosses qui dépassaient d'une bonne tête les plus grands défenseurs de la cité. On les avait choisis à cause de leurs caractéristiques physiques. Nietzsche le savait très bien. Les chefs de l'ordre aimaient envoyer à leurs ennemis des messagers effrayants à souhait, car le règne de Jagang était d'abord celui de la terreur. Cachés derrière des fenêtres ou sous des portes cochères, les habitants d'Alterrang, morts de peur, regardaient la superbe blonde à la poitrine nue qu'un étrange petit bonhomme au chapeau rouge livrait à l'ennemi. Durant tout le trajet dans les rues de la ville, Nietzsche avait senti des regards peser sur elle. Se concentrant sur ce qui importait vraiment, sauver au plus vite Alterrang et filer rejoindre Richard, la magicienne avait réussi à faire abstraction de sa pénible situation. Tout le monde la reluquait? Et alors? Entre les mains des soudards de l'ordre, elle devrait supporter de bien pires outrages.
« Je suis un adjoint du maire, »
dit Ishak à l'officier qui portait le drapeau blanc. Le bout de la hampe reposait sur la selle, entre ses cuisses, et les énormes doigts de sa main gauche serraient si fort le bois qu'ils en avaient les phalanges toutes blanches.
« Le maire m'a chargé de vous amener sa femme, comme promis. »
Ishak fit une révérence maladroite.
« Un cadeau de bienvenue pour le grand Chronos, afin de lui prouver notre loyauté. »
L'officier regarda longuement les seins de Nietzsche, puis il eut un rictus qui pouvait passer pour un sourire dans des circonstances si particulières. Comme tous ses semblables, ce guerrier portait un véritable arsenal à la ceinture, et les bandes de cuir clouté qui se croisaient sur sa poitrine grinçaient à chacun de ses mouvements. Nietzsche avait vu des centaines d'hommes de ce genre lorsqu'elle était avec Jagang. Par bonheur, elle n'avait jamais croisé ce type-là qui ne risquait donc pas de la reconnaître. À première vue, les soldats qui escortaient le messager étaient également des inconnus pour elle. Toujours silencieux, l'officier daigna regarder de nouveau Ishak qui retira son chapeau et balaya l'air avec.
« De grâce, messire, transmettez notre message de paix à... »
Sans cri égard, l'officier lâcha le drapeau blanc qui bascula lentement en direction d'Ishak. Vif comme l'éclair, l'ami de Richard remit son chapeau, puis saisit au vol la lourde hampe, toussa sans lâcher de l'autre main la bride de Sadine. L'étendard paraissait lourd, mais ce n'était pas un problème pour Ishak, qui avait passé une bonne partie de sa vie à charger et décharger des chariots.
« Chronos vous fera savoir s'il est satisfait de son cadeau, » grogna l'officier.
Ishak préféra ne rien dire et se fendit d'une seconde révérence. Autour de lui, tous les soldats ricanèrent avant de s'intéresser de nouveau aux appâts de la prisonnière. Comme tous les soudards de l'ordre, ces hommes adoraient dominer et terroriser les faibles. Presque tous avaient des anneaux aux narines ou aux oreilles, histoire de paraître plus féroces. Certains avaient même les joues percées par des pointes d'acier. Loin de trembler de peur, Nietzsche trouvait qu'il paraissait idiot, au moins autant que les crétins qui s'étaient fait tatouer le visage au point d'être méconnaissables. Une belle brochette d'imbéciles qui était parvenue sans trop de peine à régresser jusqu'au tout premier stade de la barbarie. Quand une ville se rendait face aux troupes de l'ordre, il était fréquent que des femmes à demi-nues viennent implorer la clémence des vainqueurs. Cette forme de soumission n'ayant rien d'extraordinaire, les soldats ne s'étonnaient pas que la femme du maire leur ait été livrée avec les seins exposés à tous les regards. Nietzsche avait bien entendu agi en toute connaissance de cause. Les chefs de l'ordre ne se montraient jamais cléments, elle le savait, mais les femmes qui se sacrifiaient ainsi l'ignoraient, évidemment. Nietzsche avait souvent été témoin du traitement que l'ordre réservait à ces malheureuses. En s'offrant ainsi, elles croyaient adoucir leur sort et celui de leurs proches. En réalité, elle se livrait pieds et poings liés à des tortionnaires lubriques, à l'imagination débordante. Malgré leurs beaux discours, les intellectuels de l'ordre ne s'offusquaient pas que de tels crimes soient commis au nom du Créateur. Pour eux, il s'agissait de dégâts collatéraux, car l'essentiel restait d'apporter la lumière et la foi aux mécréants. Et sur ce point-là, l'ordre impérial accomplissait sans faillir sa mission. Hanté par d'insoutenables souvenirs, sans parler de la culpabilité d'avoir participé activement à ces horreurs, Nietzsche regrettait souvent d'être encore de ce monde. Mais puisque la mort n'avait pas voulu d'elle, il lui restait une consolation. Tirer parti de son expérience pour nuire à l'ordre autant que faire se pouvait. Oui, elle entendait contribuer à éliminer ce fléau de la surface du monde. L'officier qui venait de se débarrasser du drapeau blanc se pencha et prit la bride que lui tendait Ishak. Puis il fit approcher sa monture de Sadine, se pencha de nouveau et joua distraitement avec le téton gauche de Nietzsche tout en lui parlant à l'oreille.
« Le frère Cronos se fatigue très vite des femmes, si belles soient-elles. Ce ne sera pas différent avec toi, j'en suis sûr. Quand il a choisi la suivante, il nous fait cadeau de celle qui ne l'intéresse plus. Étant le chef, je passe avant mes hommes, sache-le. »
Les soldats ricanèrent, comme pour dire que Nietzsche ne perdait rien pour attendre. Ses yeux noirs brillants de perversité, l'officier tordit le téton de Nietzsche jusqu'à ce qu'il lui ait arraché un cri de douleur. Satisfait de voir qu'elle avait des larmes aux yeux, il la lâcha et eut un sourire mauvais. Nietzsche ferma les yeux pour s'empêcher de pleurer et replia ses bras attachés sur sa poitrine afin d'apaiser la lancinante douleur. Quand l'officier lui tira violemment sur les poignets, elle sursauta de surprise puis baissa humblement la tête. Combien de fois avait-elle vu de pauvres femmes tenter d'éveiller ainsi la pitié de bourreaux inaccessibles aux sentiments humains? En agissant ainsi, elle priait sûrement pour que leur délivrance soit rapide, mais pour les victimes de l'ordre, ce n'était jamais le cas. Jusqu'à très récemment, Nietzsche avait toujours chassé ses doutes en se disant que les enseignements de l'ordre étaient purs. Pour fermer les yeux sur de telles exactions, le Créateur devait avoir d'excellentes raisons. Il savait qu'un bien supérieur naîtrait de ce qui semblait être la quintessence du mal. Aujourd'hui, Nietzsche ne croyait plus à ses fadaises. Et elle n'implorait pas la délivrance, car elle avait bien l'intention de prendre son destin en main et d'assurer son propre salut. Alors que l'officier talonnait son destrier, elle jeta un dernier coup d'œil à Ishak. L'ami de Richard avait de nouveau retiré son chapeau qu'il tenait à deux mains en triturant nerveusement le bord. Nietzsche vit qu'il avait des larmes aux yeux. Était-ce la dernière fois qu'elle posait les yeux sur ce brave homme? Reverrait-elle un jour ses autres amis? Elle espérait que oui, mais le risque qu'il n'en soit rien existait et elle n'était pas du genre à se voiler la face. L'officier s'étant emparé des rênes, Nietzsche se retint au pommeau de sa selle. Alors que la petite colonne se dirigeait vers l'est, les soldats vinrent chevaucher tout autour de la prisonnière, moins pour la surveiller que pour la reluquer tout à leur aise, comprit la magicienne. À la façon dont ces hommes se tenaient en selle, elle estima qu'il s'agissait de cavaliers expérimentés, qui passaient le plus clair de leur temps à cheval. Même si elle avait tenté le coup, Nietzsche n'aurait pas eu une chance de leur fausser compagnie. Malgré les regards lubriques qu'ils lui jetaient, ces militaires, leur chef compris, n'étaient pas assez gradés pour décider de l'entraîner derrière des buissons afin de s'amuser un peu avec elle. Les types comme Cronos n'aimaient pas qu'on viole leur conquête avant eux, et tous les soldats de l'ordre le savaient. Cela se résignait donc à attendre, et si cette prisonnière-là ne leur revenait pas, ils auraient l'embarras du choix une fois Alter Rang conquise. Pour oublier ses admirateurs, Nietzsche tenta de se concentrer sur sa mission à venir. De cette façon, elle savait que ses chiens étaient programmés pour se comporter ainsi. Brutaliser les autres était le seul moyen d'influer sur le monde qu'ils connaissaient, et ils ne se lassaient jamais de leur propre médiocrité. Car s'il leur arrivait d'avoir des doutes, ça ne durait pas bien longtemps et la routine du bourreau reprenait vite ses droits. Aujourd'hui, Nietzsche était bien décidé à utiliser sa détermination comme une armure impénétrable. Bien qu'il restât des heures avant le coucher du soleil, les cigales avaient déjà recommencé à chanter. Quelques nuits plus tôt, Richard avait expliqué que ces insectes sortaient de terre tous les 17 ans. Comme c'était étrange! Depuis la naissance de Nietzsche, ce cycle s'était reproduit une bonne dizaine de fois et elle n'avait jamais remarqué les cigales. La vie au palais sous la protection d'un sort temporel était beaucoup plus longue que celle des gens normaux, mais elle avait quelques désavantages peu visibles, par exemple couper une personne du monde réel. Pendant que l'existence suivait son cours hors du palais des prophètes, Nietzsche avait consacré son temps à tout ce qui se situait au-delà du réel, justement. Les sœurs de l'obscurité qui avaient réussi à se faire confier la formation de Richard, elle était du lot à l'époque, avaient vendu leur âme aux gardiens. Nietzsche aussi, mais pas à cause des promesses du maître des morts et de leur royaume. Non, elle pensait simplement que la vie n'avait aucune valeur, et idem pour l'univers qui servait de décor à cette absurde tragédie. Puis, Richard était venu, et tout avait changé. L'air étant chaud et humide, l'ancienne maîtresse de la mort ne grelottait pas en chevauchant. Mais les moustiques l'avaient prise pour cible et ils lui faisaient subir un calvaire. Par bonheur, elle n'avait pas les mains liées dans le dos, ce qui l'autorisait à écraser les insectes qui s'attaquaient à son visage. Les champs de blé vallonnés que traversait le petit groupe jetaient des éclats dorés sous la lumière du soleil couchant. À perte de vue, on ne voyait pas de paysans à l'ouvrage et toutes les routes étaient désertes. Comme la faune sauvage, juste avant un feu de savane, tout le monde s'était enfui à l'approche de l'ordre impérial. Quand ses compagnons et elle eurent atteint le sommet d'une colline, Nietzsche aperçut enfin le camp de l'armée de l'ordre en contrebas dans une grande vallée. Les soudards ne devaient pas être là depuis longtemps, car ils n'avaient pas fini de dresser leur campement. Apparemment, ils avaient choisi un site assez proche de la ville, histoire de ne pas avoir à se déplacer beaucoup le lendemain quand ils passeraient à l'attaque. Le sol n'était pas encore dévasté par les hommes, les chevaux, les mules et les chariots. Beaucoup de petites tentes étaient encore en cours d'érection dans un grand périmètre surveillé par des centaines de sentinelles. D'autres hommes montaient la garde au sommet de toutes les collines environnantes. Les feux de cuisson brûlaient déjà, lançant vers le ciel une multitude de colonnes de fumée noire. Sur la gauche du camp, de précieux oliviers avaient été débités en bûches pour alimenter ces feux. Un peu partout, des cuisiniers préparaient la tambouille très simple des soldats. Du riz, des haricots, des ragoûts à base de bas morceaux, du banoc ou des beignets. Les agréables odeurs de cuisine n'arrivant pas à couvrir la puanteur des excréments humains ou animaux, on avait très vite l'estomac retourné en approchant du camp. Les cavaliers continuèrent à entourer Nietzsche lorsqu'ils s'engagèrent sur une piste temporaire qui serpentait à l'intérieur du campement. La magicienne s'attendait à découvrir des soudards immergés dans les habituelles beuveries d'avant la bataille. Mais ces soldats-là étaient différents. Très disciplinés, ils se préparaient consciencieusement au combat. Certains s'occupaient des armes, tandis que d'autres s'assuraient du bon état des cuirasses et de la sellerie. Les lances à la pointe déjà aiguisées étaient proprement rangées en faisceau un peu partout dans le camp, et les forges de campagne installées à proximité des chariots fonctionnaient à plein rendement. Ne manquant pas de fournitures, les maréchaux ferrants circulaient entre les chevaux et vérifiaient leurs sabots. Assis, un peu à l'écart, d'autres hommes réparaient des équipements en cuir. Bien entendu, des palefreniers se chargeaient de bouchonner et de nourrir les destriers promis à un glorieux destin. Bref, cet endroit n'avait rien d'un camp typique de l'ordre, avant tout caractérisé par un invraisemblable chaos. Cela dit, l'armée partie envahir le Nouveau Monde était immense, et pour l'essentiel composé de barbares dont la seule mission consistait à massacrer tout ce qui leur tombait sous la main. Cette force-là, en revanche, comptait un peu moins de 20 000 hommes. Toutes choses égales, par ailleurs, il s'agissait de troupes d'élite capables de faire montre d'organisation et de discipline. Dans le camp de l'armée principale de Jagang, une femme au sein nu ne serait pas restée sur son cheval plus de 5 minutes. Ces hommes-là n'étaient pas moins lubriques que leurs camarades, mais on les avait mieux formés et ils savaient se tenir. Pour mater la rébellion d'Alterang, sa ville natale, l'empereur avait choisi des soldats expérimentés, motivés et capables de contrôler leurs bas instincts. Nietzsche en frissonna de peur. Ces guerriers-là étaient encore pires que les autres. Capables de réfléchir, ils tuaient néanmoins tous ceux qui s'opposaient à eux sans distinction d'âge ni de sexe. Comme les autres soudards de l'ordre, c'étaient des brutes qui vénéraient la violence, mais ils se cachaient derrière de fumeuses théories philosophico-religieuses. Des tueurs assoiffés de sang lâchés dans la nature pour défendre coûte que coûte les enseignements de l'ordre. Si les soldats ne tentaient pas de la faire tomber de sa monture, tous la reluquaient lubriquement, et elle avançait sous un concert d'obscénités qui dépassait tout ce qu'elle avait entendu jusque-là. Dans leur enthousiasme, les hommes ne laissaient rien à l'imagination, et Nietzsche eut droit à l'entier répertoire de mots orduriers en vigueur dans les rangs de l'ordre. Ayant vécu auprès des guerriers de Jagang, elle n'ignorait rien de cet ignoble vocabulaire, mais c'était la première fois qu'on jetait ces mots-là à sa tête. S'interdisant de tourner les yeux, elle regarda fixement la piste devant elle et pensa à la manière dont Richard la traitait. Un pareil respect n'avait pas de prix. Près d'un bosquet de peupliers, au bord du cours d'eau qui serpentait dans la vallée, Nietzsche repéra des tentes en peau de mouton un peu plus grandes que la moyenne. Même si elles n'avaient aucun rapport avec celles qui entouraient le pavillon de Jagang, les demeures de ses plus proches collaborateurs, ces tentes restaient luxueuses, surtout selon les critères de l'armée. Le village des officiers était installé au sommet d'une butte, afin d'offrir une vue imprenable sur le reste du camp. Si aucun cordon de garde n'en défendait l'accès, des esclaves de haut vol allaient et venaient entre les tentes et de délicieuses brochettes de viande cuisaient sur des braseros. Du luxe, oui, même s'il était limité. Les officiers supérieurs et les frères de l'ordre aimaient bien qu'on prenne soin de leur petite personne. Alors que la colonne s'arrêtait, l'officier qui tenait les rênes de Sadine ordonna à un de ses hommes d'aller annoncer leur arrivée. Le type sauta à terre et souleva une colonne de poussière en courant vers la tente principale. Nietzsche remarqua que des soldats approchaient de toutes les directions. À l'évidence, ils venaient admirer la femme offerte à leur chef par le maire d'Alterhang. Sous le regard à la fois concupiscent et glacé de ses soudards, Nietzsche se sentit soudain toute petite. Elle entendait les remarques paillardes qu'ils échangeaient et cela lui donnait envie de vomir. Mais il y avait plus inquiétant encore. Presque tous ces curieux brandissaient une lance ou avaient encoché une flèche sur leur arc. Ces soldats ne prenaient rien à la légère, et même s'ils la regardaient en bavant de lubricité, ils étaient prêts à faire face à toutes les menaces susceptibles d'être entraînés par sa présence. Après une ou deux minutes, le messager sortit de la tente principale devant un grand homme vêtu d'une longue tunique rouge sombre. Dans cet environnement, cette tenue le distinguait immédiatement du commun des soldats. Malgré la chaleur ambiante, sa capuche était relevée, un témoignage d'humilité, de ferveur religieuse et d'autorité. Il vint se camper devant l'étalon de Nietzsche et inspecta soigneusement sa cavalière.
« Un modeste présent des habitants d'Alterhang, »
lança l'officier qui tenait les rênes de Sadine.
Tous les hommes qui entendirent cette phrase ricanèrent, puis se lancèrent dans de grandes conversations sur les satisfactions que Chronos tirerait de son nouveau jouet. Attirés par le bruit, plusieurs officiers sortirent des tentes environnantes. Chronos sourit dans les ombres de sa capuche.
« Qu'on me l'amène, je vais déballer mon cadeau pour l'examiner de plus près. »
Les soudards rirent aux éclats.
Ravi qu'ils apprécient son humour, Chronos sourit de plus belle.
Nietzsche n'aurait pas pu dire qu'elle se sentait très à l'aise, poitrine nue au milieu de tant de porcs lubriques, mais elle avait pris le risque de s'exhiber ainsi, et elle ne le regrettait pas, car la diversion fonctionnait parfaitement. Le frère Chronos continua son inspection en attendant qu'on veuille bien lui livrer sa proie. Nietzsche croisa le regard noir du sorcier qui ne sia pas. Des hommes approchaient de Sadine. Si elle les laissait l'arracher à sa monture, la magicienne serait perdue et elle le savait. Il fallait agir maintenant. Nietzsche avait un millier de choses à dire au frère Chronos. Pour commencer, tout ce qu'elle pensait de lui et de ses semblables. Ensuite, ce qu'elle avait l'intention de lui faire. Et enfin, le traitement que Richard réservait à l'ordre impérial. Une mort rapide serait bien trop douce pour Chronos. Avant de partir rejoindre le gardien, il devait souffrir. Nietzsche voulait le voir se tordre de douleur, l'entendre implorer pitié, savoir qu'il mesurait l'étendue de sa défaite. Ce salaud devait payer pour tout le mal qu'il avait fait. Tous les innocents morts par sa faute criaient vengeance. Avant de crever, il fallait qu'il comprenne que sa vie n'était qu'un gâchis, qu'il se trompait depuis toujours et n'aurait jamais l'occasion de se racheter. Nietzsche avait envie de dévaster l'existence de ce porc, mais elle n'était pas là pour ça. Et si elle s'écartait de sa mission, elle risquait de provoquer une catastrophe. Se résignant à la sobriété, elle braqua ses poignets liés vers l'homme tout en invoquant son Han. Afin de ne pas éveiller les soupçons de Cronos, elle s'interdit de prendre ne serait-ce qu'une seconde de plus pour lancer un sort sophistiqué. Un point d'air dirigé directement sur le sorcier suffirait amplement. Pas de fioriture, mais un assaut d'une extraordinaire puissance. Même s'il se doutait qu'il avait affaire à une magicienne, Cronos ne pourrait pas dévier une attaque pareille. Un éclair déchira le ciel, juste au-dessus du camp. Une simple réaction physique générée par l'extraordinaire chaleur consécutive à la compression de l'air. Consciente que tout relâchement de sa part pouvait offrir au sorcier l'occasion de riposter juste avant de mourir, Nietzsche ne s'autorisa même pas à sourire pendant que le point d'air volait vers la tête de sa victime. Cronos n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait. L'impact fut terrifiant, creusant un trou de la taille d'un poing dans le front du sorcier. Alors que du sang et des lambeaux de matière cérébrale s'écrasaient sur la tente en peau de mouton derrière le frère, celui-ci s'écroula comme une masse. Mort sur le coup, il n'avait pas eu une chance de se défendre. Nietzsche utilisa son Han pour couper les cordes qui lui entravaient les poignets. Dès qu'ils furent libres, elle s'empara des rênes de Sadine. Puis, elle modula un filament de Han pour le transformer en une ligne de pouvoir concentrée qu'elle fit tourner autour d'elle à la manière d'une lame. L'officier qui l'avait escorté jusque-là fut le premier touché. Coupé en deux au niveau de la taille, il tenta en vain de hurler quand son torse bascula de la selle pour aller s'écraser dans la poussière. Un deuxième cavalier subit le même sort. Tandis que ses intestins se déversaient sur l'encolure de son cheval, il baissa les yeux, essaya de comprendre ce qui lui arrivait, puis mourut en un clin d'œil. Nietzsche se tourna sur sa selle pour s'assurer que sa lame magique décrivait bien un cercle complet autour d'elle. Dans le périmètre ainsi défini, aucun cavalier n'échappa à une fin atroce mais rapide. La puanteur de la chair brûlée, du sang et des entrailles chaudes emplit l'air. Partout, les chevaux ruaient pour se débarrasser de la moitié de cavaliers toujours perchés sur leur dos. En général, les destriers ne cédaient pas à la fureur des batailles, mais c'était en grande partie parce que leurs cavaliers les rassuraient et les contrôlaient. Seuls dans la tourmente, ils avaient peur, tout simplement. Et dans leur panique, ils renversaient la plupart des soudards à pied venus admirer la prisonnière. Dans cette confusion, alors que quelques hommes avaient tout de même le réflexe de l'attaquer, Nietzsche se prépara à lancer un troisième sortilège destructeur. Ce serait le plus puissant de tous. Juste avant qu'elle déchaîne son Han, la magicienne bascula en avant. Une fraction de seconde plus tard, elle cria de douleur quand une masse compacte la percuta entre les omoplates. Le choc fut si puissant que ses poumons se vidèrent de tout leur air. Du coin de l'œil, Nietzsche aperçut la hampe d'une grosse lance que quelqu'un avait utilisée comme une massue. Il lui fallut un moment pour comprendre qu'elle s'était écrasée dans la poussière. Gisant sur le ventre, elle tenta de reprendre ses esprits, mais son visage était curieusement ankylosé et elle sentait le goût du sang dans sa bouche. Elle réussit à se redresser sur un coude, voulut prendre une profonde inspiration et s'aperçut qu'elle en était incapable. Elle essaya encore mais n'obtint aucun résultat. Le monde tournait comme une toupie autour d'elle. Sadine était toujours au même endroit, comme s'il ne parvenait pas à s'écarter. S'il s'affolait, il risquait de la piétiner. Un coup de sabot à la tête pouvait être mortel. Nietzsche le savait, mais elle ne réussissait pas à bouger. Des hommes parvinrent à tirer les talons sur le côté. D'autres s'accroupirent près de la magicienne, qui sentit la pointe d'un genou s'enfoncer dans son dos pour la plaquer au sol. Des mains lui maintinrent les bras et les jambes, tas d'imbéciles, comme si elle avait été en état de se relever. Ces types redoutaient qu'elle lance un nouveau sortilège s'il la laissait se redresser. Malheureusement pour eux, une magicienne pouvait invoquer son Han dans toutes les positions. Hélas, elle avait besoin de toute sa lucidité, et celle de Nietzsche semblait être partie sans laisser d'adresse. Les soudards la retournèrent sur le dos et une botte se plaqua sur sa gorge. Des dizaines d'armes étaient braquées sur elle. À cet instant, une pensée accablante traversa l'esprit de l'ancienne maîtresse de la mort. Le sorcier qu'elle venait de tuer avait les yeux noirs. Cronos était un blond aux yeux bleus d'après la description de Victor. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Elle venait de tuer un frère de l'ordre. Tout ça n'avait pas de sens. Sauf
si plusieurs sorciers accompagnaient l'expédition punitive? Soudain, les hommes qui tenaient Nietzsche la lâchèrent et s'écartèrent. Un homme vêtu d'une tunique longue à capuche baissa ses yeux bleus sur la prisonnière.
« Magicienne, tu viens de tuer le frère Byron, un loyal serviteur de l'ordre et de son empereur. »
Nietzsche entendit dans la voix de l'homme une colère qui ne demandait qu'à s'exprimer par des actes, plus par des mots. Toujours sonnée, la respiration bloquée, elle avait mal au dos comme si sa colonne vertébrale menaçait d'exploser. L'homme qui l'avait frappé lui aurait-il brisé toutes les côtes ou carrément cassé l'échine? Quelle importance puisqu'elle allait mourir?
« Permets-moi de me présenter, » dit l'homme aux yeux bleus. « Je suis le frère Chronos. Désormais, tu m'appartiens. » Et j'ai l'intention de te faire payer très cher la mort d'un brave homme qui consacrait sa vie au service du Créateur.